c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à tous les amis. André Japy est rentré en France de retour de Saïgon après son bel exploit et encore plus chargé d'ambition et de projets. Notre pilote est tout auréolé de ses succès. Même s'il ne voulait pas de mal à Saint-Exupéry, qui pourtant cherchait à battre son record durement acquis. Mais il est rassuré d'apprendre que le pilote concurrent et son mécanicien sont sains et saufs. Ils ont marché plusieurs jours perdus dans le désert. Cette situation n'a-t-elle pas ressurgi plus tard dans la littérature et les œuvres de Saint-Ex? Vous avez dit le Petit Prince? Mais le sort n'est pas le même pour leur avion quasiment détruit et qui, du fait de l'endroit de l'accident, est condamné à être absorbé par le désert, le soleil et le sable. Cet avion, c'est un Caudron de type Simoun. Ce modèle dont je vous ai parlé dès le début et sera le prétexte et à de nombreuses apparitions de personnages et de situations tout au long de ces épisodes qui suivront, au cours du déroulement de la pelote qui doit les alimenter. Cet échec de Saint-Exupéry, qui s'était endetté pour acheter l'avion, ne va pas améliorer sa situation financière, situation dans laquelle il s'est fréquemment trouvé. Dans l'immédiat, Japy, quant à lui, profite de toutes les occasions pour parfaire sa formation et son expérience. Quelques heures sur un chasseur moransonné, un MS-405 semble-t-il, puis une période militaire dans la réserve qui le met aux commandes d'un imposant Morane 430, un gros bimoteur. Il est toujours à guetter des occasions d'accomplir des expériences. Et pourquoi pas une expérience de voltige avec Georges Détrez, s'il vous plaît. Les raids, tentatives réussies ou échecs s'additionnent. Mais pour lui et ceux qui lui font confiance, un échec bien analysé est toujours formateur et plein d'enseignements. C'est ainsi qu'il veut établir un temps entre Paris et Alger, cette fois aux commandes d'un Simoun, ça y est, nous y voilà, doté d'un puissant moteur de 220 chevaux qui autorise des vitesses de 250 km/h. Cet avion ne lui appartient pas, il lui est prêté pour la tentative. Il s'identifie par l'indicatif Fox Victor Mike. Sans problème particulier dans des conditions matérielles plutôt confortables d'une cabine. La particularité du Simoun est d'être un avion de voyage. 4 places et de la place pour des bagages, un gros moteur puissant et surtout une cabine fermée et étanche, ce qui change beaucoup de choses. Bien entendu, il est beaucoup plus lourd, il peut emporter beaucoup d'essence. Dans le cas présent, il lui suffit, si l'on peut dire, d'aller vite. C'est tout droit, pas d'escale et une mer à survoler. L'aller est fait en 5h05 et le retour, après une escale d'un peu moins d'1 heure, prend 5h58 et se fait sans problème particulier. Les homologations des records tiennent compte de nombreux critères qui constituent ainsi des catégories et des classes. Monomoteur ou bimoteur, pilote seul ou équipage à plusieurs, puissance déclarée du moteur, caractéristiques de distance de course, de décollage, de poids, entre autres. Pour le vol sur Saïgon, par exemple, l'avion devait avoir un poids maximum à vide, c'est-à-dire sans le carburant et les fluides et sans le pilote, de 550 kg. Cela suppose une construction légère et un petit moteur pas trop lourd et ne consommant pas beaucoup. Pour son raid suivant, il fait à nouveau appel à l'Aiglon et part tout seul pour destination Moscou par vol direct le 6 août à 9h du soir avec pour objectif d'être à Moscou au petit matin. Mais il est contrarié par un secteur de brume qui le retarde et le contraint à se poser un moment à Velikiye Luki, une petite ville de l'URSS qui sera à nouveau mise en évidence par une bataille entre Russes et Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Japy sera à Moscou malgré tout à 12h30 avec un temps global de 16h05. Pour le retour, le lendemain, tout se passera sans difficulté et il sera à Paris en 9h55, un temps remarquable pour les 2475 km de la distance. Ce record lui vaudra les félicitations du ministre de l'Air. En octobre suivant, il s'engage pour un nouveau challenge Paris-Saïgon-Paris. Mais cette fois, ce sera un vol en équipage. Le règlement stipule un équipage à plusieurs, de 3 ou 4, avec pour seule obligation de satisfaire à 2 points de contrôle, tant à l'aller qu'au retour, à Bagdad et à Karachi. Et bien sûr, le premier revenu sera le vainqueur. 10 équipages sont inscrits, mais seuls 3 sont prêts à temps et qui prendront le départ. Sont alignés pour concourir 2 caudrons. Cette fois-ci, c'est un gros avion bimoteur qui répond au nom de Goéland. Sur l'exemplaire Fox Oscar Sierra, c'est l'avion de démonstration de la société Japy qui fait équipe avec Jérôme Micheletti et Maurice Arnoux. Micheletti se consacrera plutôt à la radio et à la navigation, tandis que Japy et Arnoux se partageront le pilotage. Nous croisons à cette occasion de noms prestigieux qui peuvent se retrouver dans des situations de cette période d'avant-guerre mondiale. Outre Micheletti, qui sera les années suivantes l'équipier dans les tentatives de Marcel Doré, ce fameux pilote que nous retrouverons souvent, Maurice Arnoux est un pilote chasse, as de la Première Guerre mondiale et qui s'engagera avec ardeur dans la seconde. Il est détenteur de plusieurs records d'altitude et de vitesse. Sur le troisième avion engagé, cette fois un Breguet Fulgur, avec entre autres pilote Michel Détroya. J'ai ici quelques scrupules à parler de cet aviateur qui ne fait que passer dans ma chronique, comme d'autres en quelques mots seulement. Il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est un immense aviateur, virtuose de la voltige aérienne, qui a œuvré à développer. Il a notamment aidé à la formation d'Hélène Boucher, remarquable pilote d'essai chez Morane-Saulnier. Cette course Paris-Saïgon nous donne ainsi une magnifique occasion de souligner l'intervention de brillants pilotes. Pour l'épreuve elle-même, ce serait plutôt un fiasco, puisque, au-delà du peu de concurrents participants, aucun équipage ne terminera l'épreuve, même pas la première étape de l'aller. Ennui de moteur débassera dans le golfe Persique pour le second Goéland et ennui de train d'atterrissage sur celui de Japy qui, après une première réparation, cède définitivement en se posant à Karachi, occasionnant d'ailleurs la casse irrémédiable de l'aile gauche et l'hélice gauche est tordue et le fuselage endommagé. Quant au Breguet, après avoir pu trouver de l'essence à Corinthe, sa course s'arrêtera sur la route de Karachi, à Bouchir exactement, ville portuaire d'Iran sur le golfe Persique, avec des ennuis de moteur, probablement du givrage. Il est contraint à l'abandon. Mais le grand projet de Japy, sur lequel il s'était fixé depuis longtemps, restait le fameux challenge Paris-Tokyo en moins de 100 heures et richement doté, ce qui permettait en cas de gain d'amortir l'indispensable préparation technique et spécifique. Cet aspect est essentiel dans une telle épreuve et met en évidence le manque de préparation qui a sanctionné le fiasco de la course à Saïgon. L'avion retenu est bien sûr un Simoun. Il appartient à la société Caudron qui le met à la disposition du pilote. Il s'identifie par l'immatriculation F ANXA et en annonce aéronautique X-Way Alpha. Bleu à l'origine, l'avion s'était illustré lors d'un voyage record aller-retour à Tananarive avec les pilotes Génin et Robert. À la demande de Japy, il va être repeint en rouge, rouge Bordeaux. Son pilote sera seul à bord pour ne pas faire prendre le risque à un accompagnant. Mais ensuite, le seul poids accepté à bord se résume à l'essence. Le Simoun est un quadriplace. Les sièges des places arrière vont être démontés pour faire place à un énorme réservoir supplémentaire. Cette installation oblige à la condamnation de la porte d'accès devenue inutile. Une modification apportée à la première fenêtre côté gauche facilitera l'ouverture du panneau, assez grande pour permettre au pilote d'accéder avec souplesse en montant sur l'aile au poste de commande. Outre tous les instruments supplémentaires indispensables, notamment des jauges de carburant et un dérivomètre dont on n'oubliera pas d'installer une sorte de support amovible permettant de faire reposer une planche pour étaler les cartes et en faciliter la lecture. J'aurais du mal à vous expliquer le fonctionnement du dérivomètre de l'époque. Mais comprenez que l'indication chiffrée de la dérive, c'est-à-dire l'écart entre la route fixée initialement et celle que suit l'avion à tout moment, est traduite visuellement par un angle et la ligne d'une direction incorrecte est essentielle pour maintenir la bonne direction ou revenir à la route fixée si l'avion s'en est écarté. Sinon, l'avion s'écarte continuellement et inexorablement de sa route projetée. Les calculs des distances, des étapes possibles et optimales en nombre, sont faits avec le maximum de précision pour ne pas risquer la panne, mais aussi pour aller jusqu'au raisonnable de la sécurité et de la marge afin de pouvoir vider au mieux les réservoirs et emporter un maximum à chaque ravitaillement. Pour la marge de sécurité, il faut retenir qu'un déroutement de dernière heure vers un autre terrain peut toujours s'imposer. Le 15 novembre 1936, au soir, Japy met en place son simoun au Bourget, d'où sera donné le départ et le top de chronométrage à 20h46. À ce moment du récit, puisque nous sommes à la fin de l'année 1936, songeons à tout ce que notre homme a effectué depuis janvier. Retour de Saïgon, vol en Morane 405, puis Morane 630, période militaire dans la réserve, Paris-Alger aller-retour, Paris-Moscou aller-retour, course Paris-Saïgon même interrompue, et au milieu de tout cela, préparation intensive de ce Paris-Tokyo qui va décoller maintenant. Selon ses calculs, Japy pourrait atteindre Tokyo en 50 heures de vol, ce qui lui laisse pas mal de marge pour les ravitaillements et les pauses. Son estimation globale est de 75 heures, si tout va bien. Je vous propose de le rejoindre dans son vol à notre prochain rendez-vous. À bientôt sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Altitude FM.